C'est là, c'est un lieu. Fait que c'est là-bas, proche d'où ce qu'il y a de la grande eau, là-bas, par-dessus les montagnes, par-dessus les portages. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire par on réfère au fleuve Saint-Laurent. Mais
Mais
c'est
ce n'est
pas
pas le fleuve
directement ça.
Saint-Laurent, c'est une référence, c'est un concept. Je comprends, oui. OK.
C'est comme ça. C'est comme ça que nos ancêtres voient les choses. Ils décrivent ce qu'ils voient, ils décrivent la fonction, ils décrivent le lieu. Donc, Wasibegouk, c'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on était désigné aussi quand les autres personnes de la nation, les autres communautés parlaient de nous, ils référaient à nous de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que moi, je veux dire honnêtement, quand j'ai vu le nom du podcast, j'ai trouvé ça étrange. Puis, je sais pas, je suis pas convaincue que les gens de la communauté seraient pleinement à l'aise avec ça. Parce que ça réfère, tu sais, oui, ça réfère au fleuve Saint-Laurent, mais ça réfère vraiment à nous. Puis, aussi, c'est que la réappropriation de ce nom-là, moi, j'étais très contente quand l'Assemblée générale a adopté ça, a voté en faveur de ça. Mais il y avait beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Premièrement, les gens, ils disaient, ah, c'est difficile à prononcer. Puis, il y a encore, étant donné que les gens de la communauté, plusieurs ont vécu un processus presque d'acculturation. Les gens de la communauté, les responsables au bureau de la Première Nation, ils doivent toujours expliquer, c'est fréquemment expliquer qu'est-ce que c'est le nom, pourquoi. Donc, moi, c'est un peu ma seule réserve là, par rapport à ça, c'est que je ne voudrais pas que les gens aient l'impression que vous parlez de nous autres.
Mais oui, donc définitivement une discussion qu'on va avoir avec l'équipe. Puis je vous remercie de toutes ces nuances-là.
Puis
Puis
avec d'autres personnes de la nation aussi, hein, parce que moi j'ai un point de vue là-dessus, mais je suis pas la seule. Puis je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'entendre les autres apprenants de la langue, parce que ou d'autres personnes qui ont pris part à ce processus-là de réappropriation identitaire, tout ça.
Mais absolument, absolument. J'aimerais faire un lien justement avec un article que vous avez publié en novembre passé sur l'espace autochtone qui se nomme Comment nommer sans oublier. Dans cet article-là, vous vous posez des sérieuses questions face à la nouvelle tendance des institutions québécoises et canadiennes de renommer les rues, les buildings ou autres pour faire disparaître certains noms coloniaux. Aimeriez-vous nous en dire plus sur vos réflexions face à cette tendance-là de renommée? Puis qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le domaine un peu prochainement?
T'sais, ça part d'une bonne volonté. Hein. Ça, je le vois. Là. Puis quand on parle de renommée, que ça a été la rue Amherst à Montréal, des édifices fédéraux en l'honneur de Langevin, justement. Des fois, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de questionnement en arrière sur où est-ce qu'on veut aller avec ça, pourquoi on le fait. D'abord, la toponymie au Québec, ça a volontairement été fait pour effacer les toponymes autochtones. Puis aujourd'hui, il y a encore des enjeux de revendication territoriale associés à ces toponymes-là. Donc, on sent que les autorités sont réticentes, hein, à des fois à reprendre des toponymes autochtones par peur d'avoir peut-être une revendication liée à ça ou d'être en train de reconnaître quelque chose ou de s'engager dans quelque chose. Donc, moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus un processus t'sais, appuyé sur l'histoire parce que ces noms-là existent. Sur des cartes anciennes, on les voit, ils sont beaux, ils sont surtout plus que beaux, ils sont porteurs de sens. Saint-Épiphane, là. Moi, là, je ne sais pas c'est qui Saint-Épiphane, là, mais ça me renseigne pas sur le lieu. Je trouve pas ça intéressant. Alors que quand on va chercher des toponymes autochtones, on regarde par exemple Squatec. Squatec, c'est très clair ce que c'est. Parce que si je dis Squatec en Wolastoqwé, ça veut dire la place du feu. Donc, moi, j'aimerais voir beaucoup plus des démarches historiques authentiques. Historiquement, est-ce qu'on pourrait juste le reconnaître qu'il y avait une présence autochtone au Québec? On dirait qu'il y a une gêne à reconnaître ça. Puis d'ailleurs, hein, c'est ça, les règles de la toponymie, comme on sait, la langue Ganyangahaga, elle a des accents. des deux points, donc des ponctuations qu'on n'a pas en français. Et ça, Adategen a été choisi justement parce qu'il n'y avait pas ces complications-là. Donc, on vient un peu limiter le processus. Puis, nos ancêtres, comment ils nommaient les endroits, c'était très significatif. Là, c'était, on décrivait, on faisait un peu une action d'expliquer, hein? On laissait aux générations futures une explication sur le lieu, sur la fonction du lieu, sur son importance. Donc, quand on vient trop cadrer ces expériences de renommer des lieux, on perd un peu la signification d'origine, là, un peu le caractère sacré de ce que c'est que de nommer un lieu dans notre territoire. Et c'est des processus qui doivent revenir aux communautés. C'est aux communautés de faire ça. Les bonnes intentions, c'est une chose, mais des fois, on a l'impression que en voulant bien faire, il y a des alliés qui pensent mieux savoir que les gens des communautés qu'est-ce qu'il faut faire. Puis on a beaucoup eu des discussions en ce sens-là sur la décolonisation. Mais oui, c'est dégueulasse la colonisation, là, je ne vais pas mâcher mes mots, c'est certain. Hein, c'est vraiment au Canada, on est loin d'être des champions. Hein, mais la colonisation a affecté les communautés de façon différente et elles vont se décoloniser chacun à leur façon. Fait que c'est des processus qui doivent venir d'en bas, des gens, des communautés qui ont une responsabilité d'action, d'implication auprès de leur communauté pour avancer ce processus-là, mais c'est pas aux gens de l'externe de venir le faire à notre place.
Absolument, mais oui. Oui, c'est un message qui fait beaucoup, beaucoup de sens, qu'on va essayer de porter avec nous dans nos émissions, en fait. Puis peut-être, si vous aviez envie de parler de votre expérience en tant que femme, voilà, c'était qui, dans l'Est du so-called Québec, et de faire des liens un peu avec cet article que vous avez publié en mars dernier, intitulé « Ces femmes qui n'avaient pas de voix », où vous relatez les différentes mesures coloniales et patriarcales qui ont été mises en place à travers l'histoire.
Mais c'est un fait établi, ça ne peut pas être plus clair que les politiques coloniales canadiennes, ils s'en sont pris aux femmes autochtones. Puis, pourquoi? C'était clair, c'était parce que les femmes avaient un rôle très structurant dans les sociétés autochtones. Donc, pas nécessairement uniquement dans les sociétés dites matriarcales. C'est vraiment... Il y a différents modèles de gouvernance traditionnels et puis les femmes avaient un rôle que les Européens n'appréciaient pas ou ne comprenaient pas. Donc, mettons qu'on laisse une chance, là. Mais ce qui est certain, c'est que puis aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes, ils commencent à comprendre l'ampleur de ce que ça voulait dire assimilation. Ça voulait dire extermination, ça voulait dire disparition de la culture, effacement là, de tout ce qui était l'identité. Et puis, dans qui est-ce dans une structure familiale qui est garant de l'identité, de la culture? C'est souvent la mère. D'ailleurs, hein, on ne sait pas pour rien qu'on dit une langue maternelle. C'est parce que c'est ta maman qui t'apprend ta langue. Le rôle des femmes dans les communautés était un peu ce rôle-là, de gardien d'identité, la culture de savoir. Donc, en privant les femmes de l'accès à leur communauté, on s'attaquait directement à l'avenir de nos peuples, et ça a été fait volontairement. Et puis, d'ailleurs, moi, je suis toujours très fière de dire qu'une des femmes qui a lutté le plus, c'est qu'il a gagné un énorme combat contre le gouvernement colonial canadien. C'est une femme de la nation Wolastoqui. C'est une femme de la communauté de Nigwitkuk, Tobik, au Nouveau-Brunswick, et c'est Sandra Nicholas Lovelace. Et on elle, oui, qui est sénatrice aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, les femmes ont pu reprendre leur statut qu'elles avaient perdu par le mariage avec un non-autochtone, grâce à elle, parce qu'elle a contesté les dimensions discriminatoires de la loi sur les Indiens aux Nations Unies. Elle s'est rendue là pour regagner l'accès à sa communauté, pour que ses enfants puissent vivre dans la communauté, dans leur culture. Donc, ça, c'est la réalité. Mais ce qui est très difficile, si je ramène ça à moi, parce que la question était plus formulée vers moi, là. Être une femme Wolastoqui dans l'Est du Québec, dans ma réalité de notre communauté Wassibégouk, les défis, c'est que je voudrais bien, moi, transmettre, parler avec les autres femmes, contribuer à ce que mes enfants connaissent les enfants des autres, qu'on échange, mais c'est très difficile, étant donné la dispersion des membres de la nation. Mais c'est pour ça que je tiens toujours à m'impliquer dans la communauté, là, hein, sur le comité culturel, par exemple, pour moi, c'est extrêmement important, c'est ma façon d'être présente. Et c'est pour ça aussi que je te parle aujourd'hui, parce que je sais qu'on a trop peu parlé de nous dans les dernières décennies. Puis on gagne tellement à être connu.
Mais oui, mais oui, absolument.
C'est ça, c'est un peu ça, moi, ma façon à moi de contrer les défis de la réalité, de ma réalité.
Bien, c'est extrêmement généreux de votre part, puis on vous en remercie beaucoup. J'aimerais terminer l'entrevue en vous demandant si vous aviez quelque chose à rajouter qui n'a pas été abordé durant l'entrevue.
Moi, j'inviterais vraiment les gens à s'informer sur les peuples autochtones. Pas juste sur notre communauté Wassibégouk, notre nation, la nation Wolastoqui. Puis, il y a tellement d'activités en ce temps-ci de l'année pour valoriser les cultures autochtones. Si on n'aime pas la politique, il y a tellement des artistes extraordinaires dans tous les domaines des arts. C'est de plus en plus accessible, là, les cultures autochtones. Puis, c'est certain là, qu'il y en a pour tout le monde là-dedans. C'est à découvrir. Puis, c'est ça. Je félicite là, des initiatives, des gens, par exemple, qui essaient de dire « Kwe »,« Waliwan », qui essaient de dire le nom de la nation. Je pense qu'on fait toujours des pas dans la bonne direction, là, dans l'ouverture, comme ça.
Merci infiniment, Edith Wallalen, comme j'ai appris le dire en Mi'kmaq, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. J'encourage tous nos éditeurs et nos éditrices à aller lire les multiples chroniques d'Edith, facilement accessibles sur Espace Autochtone, et aussi d'aller écouter une excellente entrevue que vous avez donnée à Rumeur du Loup il y a quelques mois, qu'on peut trouver en ligne aussi. Aussi, une copie de votre livre « Les arbres murmurent notre histoire » va être disponible dès l'ouverture de la bibliothèque Languille au Centre social autogéré du collectif Le Récif à Rivière-Trois-Pistoles. Et on va faire tirer une copie parmi nos auditeurs et nos auditrices. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux pour participer au concours. Encore une fois, Edith, merci. Je vous souhaite une merveilleuse soirée.
Waliwan.
Jean Siwi est un poète Wendat, originaire de Wendake. En plus de publier la poésie depuis 1997, il œuvre comme éditeur, formateur et facilitateur. Son travail contribue au développement des nouvelles générations d'auteurs et d'autrices autochtones d'expression française au Canada. Les extraits choisis sont tirés du recueil intitulé « Ayaraskwa, j'avance mon chemin ». Vous entendrez le prologue du livre, suivi de trois courts poèmes. Prologue. Chacun de nous est un élément de la terre-mère, mais unifié, en cercle vers l'accomplissement d'un destin honorable. J'ai un territoire, je l'investis. Je l'occupe non seulement physiquement, mais aussi sur le plan de l'imaginaire. je l'anime de ma culture. Pour m'épanouir, j'ai besoin de ce territoire particulier à raconter. Un territoire dans lequel plonger mes racines. Mes pensées rencontrent celles de mes ancêtres. Je veux simplement que vous voyagiez avec moi. Que l'on sache chacun qui nous sommes pour mieux donner vie et visibilité à nos valeurs, nos cultures. Nous sommes hommes et femmes de couleur, mariés sous l'arbre de la grande paix. Demain, peut-être, nous écrirons dans un même livre. Hier, j'ai pris le chemin d'un ancien poste de trappe. Je l'ai trouvé détruit. Plus rien ne laisse croire à la vie qui habitait l'endroit. Il y a bien longtemps. Sauf peut-être quelques poils d'anciennes peaux de castor qui ont fait la richesse des commerçants. Les âmes de radissons et de dégroseillers ne hantent plus les lieux. Mon esprit a déjoué le temps. J'ai revitalisé le cœur du camp. J'ai fermé les yeux et j'ai vu dans un rêve éveillé le troc entre blancs et indiens. J'ai entendu le chant des sauvages qui approchaient des comptoirs, le dos courbé sous la charge des fourrures. J'ai imaginé l'échange du cuir contre le cuivre. J'ai reconnu le sourire mercantile des Français et les yeux rieurs des Hurons. Je me suis raconté l'histoire à l'envers du temps avant de rentrer en ville. Le temps qui passe se camoufle dans l'espace. Comme la vague qui, derrière mon canot, devient lac, mes secondes résident dans l'éternité. Toi qui lis ce recueil, mets-le à chaque page dans le temps que tu choisis. Toutes les époques sont bonnes, toutes les lignes sont à l'heure indienne. Ce livre n'est pas écrit dans un monde raisonnable afin de te laisser le plaisir de l'affabulation, de l'évasion, du « ayahuasca, j'avance mon chemin ». Donne-toi le droit de mêler les temps. Change ton heure à tous les poèmes. Tu seras toujours au bon moment. Avance ton chemin. Tout ce que tu liras peut s'être passé aujourd'hui, comme hier. Ce que tu retiendras n'est qu'un rêve irréel, sans date de pérennité. Bonne lecture. Jean Siwi. Au creux de ma vie, Kanata n'est plus un beau village. Diodjage s'appelle Montréal. Francophonie en délire. Le sommeil agité des Indiens, chefs, maires, juges, curés, immigrés, décors des vies, rêves inachevés. Je suis âgée de plus de 6000 ans, tu m'en donnes 375, à l'envers du temps, de mes racines ancestrales. Je salue Québec qui veille sur les remparts, rouge, blanc, noir, dans la mire des canons, lieu de traite des nations. Qu'on diaronque, harangue dans ma tête, le micro du sauvage au bord des lèvres. J'entends la paix des braves dictée du pays des âmes. Les hommes nous ont nommés Indiens pour tracer la carte de leur voyage. Les hommes nous ont donné des noms dans le sarcasme de leur langue. Au fond de leurs yeux brillaient des fourrures d'or. Nos gorges ont connu leur eau de vie, nos corps ont visité leur drap blanc. Sont nés des enfants aux cheveux pâles, en transmission après l'orgasme, des rejetons voyageurs, vivent partout, ensemble. Une différence chante en chacun de nous, au son aigu de nos histoires, à couper le temps. C'est ainsi que se conclut le premier épisode de « En jasant sur Wassibégoug ». On sort de ça déjà avec beaucoup de questions, et il y en a probablement d'autres encore qu'on n'a pas remarquées. On remercie énormément Edith Bélanger qui a eu la générosité de participer à ce projet qui n'existait même pas encore. Merci pour ta confiance. On va tout faire pour l'honorer en écoutant les voix autochtones et en apprenant quels gestes poser. D'ici au prochain épisode, on va se pencher sur la question du nom de notre émission. On va entrer en contact avec d'autres personnes Wolastoqwe Wassibégoug qui ont envie de nous donner leur avis et on va discuter en équipe des actions qu'on prendra sur la question. On vous tiendra au courant de nos démarches. On entend souvent parler de grandes luttes anticoloniales qui brassent aux quatre coins de l'île de la Tortue et dans le monde. Ces luttes sont incontournables, évidemment, mais la décolonisation, ça se passe aussi juste ici, sous notre maison. En écoutant l'entrevue avec Edith, on s'est senti extrêmement touché d'apprendre la poésie du territoire et du peuple Wolastoqwiyik, et la tragédie de son effacement, son écartèlement, son humiliation. Ça se passe juste ici, à côté, à travers nous. Et vous, avec quel sentiment sortez-vous de cette écoute? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a le plus touché du contenu de l'émission? Quel est le premier geste que vous allez poser en réponse? Et le deuxième? Et le troisième? On s'en donne des nouvelles! Un énorme merci à Antoine qui a, entre autres, brillamment mené l'entrevue avec Edith. L'équipe de En jasant sur Wassibégoug est composée de Kim, Antoine, Daphné, Camille et moi-même. Merci aussi à Fanny et Cassandre pour le travail de rédaction.
Merci d'avoir été parmi nous. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'infos sur l'actualité, les sujets abordés et les levées de fonds en cours, ou encore sur la musique et la littérature que vous avez entendues, rendez-vous sur notre page Facebook pour les liens externes. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, iTunes, Google Play, Spotify et baladoquebec.ca en écrivant « En jasant sur Wassibégoug ». W-A-H-S-I-P-E-K-U-K. Vous êtes plus que bienvenus à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. On espère que vous avez appris.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. In Afghanistan, the Taliban has seized control of Kandahar and Herat, the country's second and third largest cities. Taliban forces have also overrun Lashkargah, the provincial capital of Helmand province in the south. It's one of 17 provincial capitals now under Taliban control. The Taliban accelerated its sweeping offensive last week as the United States was pulling out its troops after nearly 20 years in Afghanistan. On Thursday, the Biden administration announced it's sending 3,000 extra troops back to Kabul to help evacuate U.S. Embassy staff. Britain and Canada are also sending in new troops. State Department spokesperson Ned Price spoke Thursday.
We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks. In order to facilitate this reduction, the Department of Defense will temporarily deploy additional personnel to Hamid Karzai International Airport.
Aid groups are warning of a humanitarian crisis in Afghanistan as tens of thousands flee their homes to escape the Taliban. Meanwhile, the Afghan government has reportedly offered a power-sharing proposal to the Taliban after headlines will go to Kabul, Afghanistan, for the latest. China indefinitely closed a terminal at the world's third busiest container port Thursday after a single worker tested positive for coronavirus. The shutdown came as China struggles to maintain its COVID zero policy after it detected its first Delta variant infection last month. Australia's capital, Canberra, has begun a one-week hard lockdown after officials confirmed the first locally transmitted COVID-19 case in over a year. Almost half of Australia's population is now in lockdown amidst the nation's largest COVID outbreak in a year. Russia recorded a record high 808 COVID-19 deaths Thursday. It was Russia's fifth record high daily toll this month and came 1 year after the highly effective Sputnik V vaccine was approved. Fewer than one in five Russians are fully vaccinated, even though shots are widely available. Here in the United States, the Food and Drug Administration's granted emergency use authorization for a third shot of the Pfizer or Moderna vaccine to certain immunocompromised people. Centers for Disease Control Director Dr. Rochelle Walensky said Thursday the shots will be made available to cancer patients, organ transplant recipients, and others who are less able to mount an effective immune response to vaccines.
To be clear, this is a very small population. We estimate it to be less than 3% of adults.
New Orleans and San Francisco said Thursday all patrons to bars, restaurants, gyms, and other indoor spaces will be required to show proof of vaccination. New York City's adopting a similar requirement next week. On Thursday, the U.S. Supreme Court ruled Indiana University may keep its requirement that students attending classes be vaccinated against COVID-19. Justice Amy Coney Barrett turned down a challenge to the requirement without comment and without referring it to the full court. In Florida, Brevard County's fire chief is pleading with residents to cut back on 911 calls as a surge of COVID-19 cases is overwhelming hospitals and leading to a shortage of ambulances. In Broward County, Teachers Union President Anna Fusco says four Broward County school teachers have died of COVID-19 in just one 24-hour period this week. And she said students are getting sick and dying across Florida, too.
We had a student pass away in Duval County. We had a student pass away in Alachua County. And right here in Broward County, we have a 15-year-old high school student that is at a school that's no less than 5 miles away from our Union Hall that is fighting for her life on a respirator.
Over 800 Florida physicians have signed an open letter to Republican Governor Ron DeSantis calling on him to repeal his executive order punishing school districts and officials who order mask mandates and other public health measures. DeSantis has threatened to stop paying the salaries of school administrators who support mask mandates. In Texas, Houston school board officials have voted to require all staff, students, and visitors to wear masks on school property. The order defies a ban on mask mandates by Texas Republican Governor Greg Abbott. The U.S. Supreme Court has blocked part of a New York State eviction moratorium, a ruling housing advocates say could lead to thousands losing their homes. The moratorium, which was set to expire at the end of the month, barred landlords from evicting tenants who filled out a form claiming economic hardship instead of going through a court hearing. This comes as new data from the National Low Income Housing Coalition shows nearly half of U.S. workers cannot afford to rent a one-bedroom apartment. Israel's announced it'll resume settlement building in the occupied West Bank after an almost year-long break. The settlements are considered illegal under international law and routinely dispossess Palestinians of their homes and land. Some 2,000 new units for Jewish settlers are expected to be approved next week, as well as 1,000 units for Palestinians living under Israeli military control. At least 45 prominent Jewish American leaders are calling on AIPAC, that's the American-Israel Public Affairs Committee, to apologize to progressive congresswomen of color, accusing the lobby group of putting their lives at risk with repeated Islamophobic attack ads. The ads link Congressmembers Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Cori Bush and Alexandria Ocasio-Cortez to terrorism and mirror language used in death threats they've received. Omar and Tlaib are the first two Muslim congresswomen, and Tlaib is Palestinian-American. They've been vocal critics of Israel's violations of Palestinian human rights and its killing of Palestinians. In immigration news, the number of asylum seekers apprehended at the U.S.-Mexico border has reached an unprecedented level, with more than 212,000 people apprehended in July alone, including at least 19,000 unaccompanied children. People in Central America, the Caribbean, and other regions continue to flee worsening poverty, violence, and the impact of the climate emergency. At a news conference in Brownsville, Texas, yesterday, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas once again warned asylum seekers not to come to the U.S., saying they'll be turned away. This comes as Biden officials still have not located the parents of over 300 children separated from their families at the U.S.-Mexico border by the Trump administration. The Republican-led Texas Senate passed a sweeping voter suppression bill Thursday, following a 15-hour overnight filibuster by Democrat Carol Alvarado. Under Senate rules, Alvarado could not take bathroom breaks or drink water and was not allowed to sit or lean against her desk. Wearing sneakers and a back brace for support, she concluded her marathon filibuster Thursday morning.
Voter suppression anywhere is a threat to democracy everywhere. Thank you. Gratefully, thank you, Mr. President and members.
The bill now heads to the Texas House, where Democrats have successfully been delaying its passage by not showing up to vote, thus denying the chamber a quorum. Earlier this week, the House Speaker signed 52 arrest warrants to compel the Democrats to return to the Texas Capitol. The wife of Kentucky Senator Rand Paul bought stock in Gilead Sciences, a drug company which produces the COVID-19 treatment remdesivir, in the early days of the pandemic. Senator Paul made the disclosure just this week, more than 16 months after he was legally required to do so. As a member of the Senate Health Committee, Paul was briefed on the emerging pandemic a month before the shares were purchased in February 2020. An aide for the senator claimed the disclosure was prepared last year, and Rand Paul believed it had been submitted. Meanwhile, YouTube suspended Senator Paul on Tuesday for 1 week for spreading misinformation after he claimed in a video that masks are ineffective at protecting against COVID-19. The 2020 U.S. Census data shows Asian and Latinx populations have boomed in the past decade as the number of white people in the United States has fallen to under 60% for the first time on record. Census Bureau officials say the U.S. population is much more racially and ethnically diverse than ever before. Over 9,000 anti-Asian incidents have been reported across the United States since the beginning of the pandemic, according to the group Stop AAPI Hate. Women and older people are particularly at risk for the hate crimes. Rights groups have attributed the rise in violence to misinformation about the pandemic and the use of anti-Asian language by political officials, including former President Trump. And in Minnesota, climate activist Jessica Resnicek self-reported to the Waseca Federal Correctional Facility Thursday to begin serving an 8-year prison sentence for damaging parts of the Dakota Access Pipeline in 2016 and 17. In 2016, she and fellow activist Ruby Montoya set fire to 5 pieces of heavy machinery being used to construct the pipeline. The two women then moved up and down the pipeline's length, destroying valves and delaying construction for weeks. Resnicek's imprisonment came the same week the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change warned in a major new report that the Earth could face runaway climate catastrophe unless drastic efforts are made to reduce greenhouse gases. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Sam's excited to see his favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the gouvernement du Québec.
As long as there have been human beings, the human beings have gathered in the summer at different times of the year to celebrate being human beings. And so to me, this is kind of a form of that, what's happening in this technological digital reality that we're in. So it's good to see that everyone's bringing their energy here in a way that's really about celebrating and feeling good. So this is kind of, this is the part of the kind of reality that our reality needs, this kind of healing. Well, as long as I'm up here, you're on the wrong subject. Human beings, right? Because most of you are not my generation. I came out of the generation that did whatever we did in our own way to try to make things better for your generation. There were accomplishments, and then there were things that weren't really quite accomplished, and they've been left kind of fuzzy and hazy and things, I think, still. But one is that I think is important. We remember that we're human beings, that we recognize ourselves as human beings, because that's the reality of who we are. Somehow they know how to make that voice reach from the ancient to the futuristic, right? While it passes through the present.
Need time for the feel, yeah. Hit your line up when I feel it. And I need to know if it's real, yeah. She like when I'm taking control. Said that my vibe is just something they don't. Got it, she needed to feel like she home. Said I'm the one, it's just something they know.
Love on my mind. Catch on the high when your name on my line. Heart is defined. Love that I'm calling you mine. Love that I'm calling you mine, yeah, yeah, yeah. Hey. Shawty know she on a roll. And she know I wanna roll, wanna roll.
You don't need to say no face. No way, gonna get it like you do right now. What you wanna do right now? I see forever with you. Always better with you. Never would ever with you. Wanna spend all of my favorite weathers with you. I said it is true, yeah. I wanna come, I wanna stay. I want it all, want it every day. Watch the seasons change. Cause it's you, cause it's you, cause it's you. Fall in love with you, cause it's you, cause it's you.
Girl, it's right now, spending the night now. Waking up and question, cause if it's you, then I know. Yeah, girl, I know, yeah, I know. Whoa. Tell me where you wanna go. She said she don't wanna go. Ain't no rush, and we can take it slow.
Thank you.
favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the gouvernement du Québec.
Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Looking for Montreal's best organic and fair trade certified coffee? And the winner is Centre Paul, serving the freshest to the coolest means that not only the folks at CKET are hooked, it's also McGill's fair trade favorite. Enjoy it in the cup at the Architecture Cafe, Thompson House, and Vegirama Arts, Education, and Music. Find it by the pound at Fruiterie du Parc in the shopping concourse under the new Hotel McGill at Place du Parc. Or go straight to the source, Café Centre Paul, at the corner of Duluth and Saint-Urbain,